Là où l'économie du développement nous informe que l'Afrique a un seul avantage comparatif, à savoir sa dotation extraordinaire en matières premières. Cheikh Anta Diop, à l'inverse, nous apprend qu'en vérité, l'Afrique dispose non pas d'un avantage comparatif, mais de deux avantages comparatifs. Et c'est là toute la différence. D'une part, l'Afrique est dotée d'une extra... L'Afrique bénéficie d'une dotation extraordinaire en matière première, mais en plus, l'Afrique bénéficie d'une dotation extraordinaire en source d'énergie. C'est ce que Cheikh Anta Diop appelle la concentration simultanée sur notre sol des sources d'énergie et des matières premières. Seul le continent africain dispose d'un tel double avantage comparatif.
Eh oui, bienvenue dans la suite de ton podcast. Ce podcast m'a été inspiré pour te présenter, au cours d'une série de 3 épisodes, comment l'Afrique pourrait s'ouvrir différemment à la question écologique. L'Afrique pourrait accéder à un immense capital énergétique vert si et seulement si elle décidait de regarder sincèrement ce qui se trouve sous ses pieds et en assumer l'héritage pleinement. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du guide du petit panafricain. Ton manuel audio qui sublime ton regard sur le grand continent sous le prisme du panafricanisme. Dans ce podcast, eh bien, on valorise ce que nous avons de meilleur. C'est Arleno qui te parle. Si tu viens de nous rejoindre, sois la bienvenue. Sois la bienvenue dans l'épisode 19 de ton podcast. Nous sommes en 2022 et l'Afrique, c'est toujours chic. Rappelle-toi que nous n'avons pas encore atterri. Nous sommes toujours en plein vol et c'est depuis ma cabine de bord que je m'adresse à toi. Nous nous étions arrêtés à la visite de la zone ouest-africaine avec notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Sierra Leone, la Guinée. Pour ne citer que ces pays-là. Repartons donc, ou du moins je t'amène pour un tour de l'Afrique à travers les Grands Lacs, le Soudan Nilotique et l'Éthiopie. D'abord, il faut savoir que cette région est plusieurs fois vaste que l'Europe et elle possède comme principale source d'énergie les réserves du Nil et ses affluents. Je t'amène donc à la découverte du Nil Blanc, qui lui prend sa source dans le lac Nyanza ou lac Ukerewe, mieux connu sous le nom de lac Victoria, mais aussi à la découverte du Nil bleu qui lui prend sa source dans le lac Tana en Éthiopie. Suivant les estimations faites par les chercheurs, on dégage un potentiel hydraulique de plus de 60 milliards de kilowattheures de réserves annuelles. Précision. Cheikh Anta Diop avait prédit que la majeure partie de cette énergie serait produite par le barrage d'Owen en Ouganda. C'est l'occasion pour moi de rappeler, en tout cas de te rappeler, de garder ta ceinture bien attachée car des turbulences sont à venir. Ce qu'aucun n'avait prédit, c'est que les prévisions de Cheikh Anta Diop seraient concrétisées 62 ans plus tard par la construction du plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique. Mais pas en Ouganda. J'aimerais qu'on ouvre ensemble une petite parenthèse sur un sujet qui me tient à cœur. En effet, au mois de février 2022, l'Éthiopie inaugure le barrage de la Renaissance à Gouba. Ce barrage a nécessité 10 ans de travaux et ce barrage est crédité d'environ 6450 mégawatts. Ce barrage est dans le top 10 des barrages les plus grands au monde. Il est devant celui de Xiangjiba en Chine, qui lui a une capacité de production de 6448. Une véritable fierté nationale, pardon, pour l'Éthiopie, mais une fierté africaine également, parce que l'Éthiopie a financé ce barrage de la Renaissance à hauteur de 4,8 milliards de dollars sans aide extérieure. Je rappelle qu'au moment où nous enregistrons ce podcast, l'Éthiopie est un pays sous sanction des États-Unis, de l'Union européenne, ainsi que des institutions internationales. Renaissance, avez-vous dit. La Renaissance passe par la conquête de sa souveraineté politique, monétaire, certes, mais aussi et surtout par son indépendance énergétique. Et avec ce barrage, l'Éthiopie sera autonome pleinement en énergie. Quelle fierté pour votre serviteur de voir ainsi l'Éthiopie réaliser l'un des chantiers du panafricanisme, à savoir l'indépendance énergétique. Je te l'avais dit à toi, chers frères et sœurs, qui attend de voir avant de croire. Sache que pour le panafricaniste ou pour les panafricanistes, c'est l'inverse. En effet, il faut croire très très fort afin de faire émerger ce sentiment inexpliqué de capacité d'action. Les actions seront ensuite nourries par ce sentiment merveilleux qu'est la confiance en notre capacité commune à accomplir ensemble des choses extraordinaires pour le continent. Et le résultat ne sera qu'explosif, à l'image de nos ancêtres qui nous ont légué en héritage ce trésor inépuisable que sont les valeurs africaines. Regarde bien ceci. Il y a 62 ans, un intellectuel sénégalais a théorisé qu'un barrage dans la région des Grands Lacs aurait à lui seul la capacité d'électrifier une bonne partie du continent. Il appelait ainsi de tous ses voeux les Africains à participer à l'industrialisation de cette région. Des décennies de politique coloniale plus tard, deux barrages, Inga 1 et Inga 2, créés au lendemain des indépendances, fonctionnent actuellement à 20% de leur capacité. Et aujourd'hui, le Congo est obligé de solliciter des financements externes auprès des Chinois, notamment pour que le continent entier, alors que le continent entier aurait pu participer à la réhabilitation de ces barrages. Et pourtant, un barrage sur le fleuve Zaïre, suivant les estimations, aurait une capacité de, attention, 400 milliards de réserves de kilowattheures annuelles. Mais, son rêve de rendre autonomes en énergie les États-nations du continent, en les informant de leurs capacités hydro-énergétiques, vient d'être réalisé par le peuple éthiopien. C'est dire si la pensée panafricaine voyage. Et là, j'ouvre une nouvelle parenthèse. C'est pourquoi nous devons, en tant que peuple, considérer au mieux nos pensées pour l'Afrique. Car toute chose revient à sa source, disent les sages africains. Ainsi, si nous pensons à une Afrique debout, rayonnante, dynamique, puissante, forte, résiliente, loin des fantasmes, cela va sans dire. Qu'allons-nous voir dans les décennies à venir? Une Afrique à l'image de nos pensées, nous verrons. À rebours, si nous avons plutôt un regard défait, des pensées inopérantes, c'est bien le contraire que nous verrons arriver, à savoir une Afrique défaite, incapable de s'assumer. Pour te donner un exemple, un jeune artiste de reggae a chanté dans les années 1980 « Positive Black System ». Il disait en filigrane « Un jour viendra où le mouvement black sera positif partout ». Et il ponctuait « Vérité, c'est la vérité ». 30 ans plus tard, n'as-tu pas le sentiment que le mouvement black est à la mode ? À méditer. Je referme ainsi les parenthèses. Mais, qu'allons-nous faire de tout ce capital minier et minéralier, ces réserves de bois rares, ces bassins fertiles propices à une industrie agroalimentaire et autres produits oléagineux? Il faut reprendre le travail là où l'avait laissé Cheikhanta Diop et l'enrichir, l'améliorer pour notre propre intérêt et vite, car l'histoire a démontré à suffisance que les multinationales étrangères sont incapables d'exploiter avec sérieux et de manière propre, écologique, les ressources précieuses que leur offre quasi gratuitement le continent. Je ne reviens pas sur les catastrophes écologiques liées, car il est vrai que les multinationales occidentales, pour la plupart, ont démontré leur incapacité à préserver la moindre parcelle d'exploitation en Afrique, un continent pourtant vert et disposant d'énergie verte en abondance. Ces entreprises qui ont, en tout cas qui ont été dans l'incapacité de préserver les écosystèmes marins, terrestres, miniers en Afrique, expliquent via la COP26 notamment qu'il faille agir pour la planète. Ces entreprises veulent nous faire croire qu'elles seront capables de gérer proprement la transition écologique. Ça, j'en doute. Travailler proprement, il faut le dire, est une compétence qui s'acquiert progressivement au fil des années. Or, ces multinationales n'ont pas su développer cette compétence. Elles devraient être exit du game. Et le rapport du GIEC est un signal adressé aux Africains qui sont les moins pollueurs, il faut le dire, mais néanmoins les plus pollués par l'industrie néolibérale qui se contente d'appliquer une politique vieille de la période coloniale, à savoir prendre le maximum et ne rien laisser en termes d'infrastructures aux pays exploités, comme le soulignait notamment René Hoffer dans son livre éponyme « La coopération économique franco-africaine ». Si tu viens de découvrir la capacité énergétique des régions citées et que tu es enthousiasmé par l'idée que l'Afrique n'a pas besoin de conférences sur l'écologie et qu'elle a plutôt besoin d'écrire ses propres politiques énergétiques et organiser son développement, alors tu es le bienvenu. J'espère en tout cas que jusque-là tout va bien. Aujourd'hui, tu voyages en business class. Tout est mis en œuvre pour ton confort. J'espère donc que tu apprécies ton vol. Alors, abonne-toi, partage, like et surtout, parle-en autour de toi afin de vulgariser un récit authentique sur l'Afrique et sa diaspora. Un récit authentique sur le grand continent. Allez, là je te donne les ordres de grandeur. La Sanaga et l'Ogoué, au Cameroun notamment. C'est 300 milliards de kilowattheures de réserves annuelles disponibles. Le fleuve Zaïre, on tape sur 400 à 600 milliards de kilowattheures de réserves annuelles. Le bassin du Zambèze, qui traverse le Zimbabwe, la Zambie, c'est 45 milliards de kilowattheures de réserves annuelles, selon une étude faite par un certain Ivan Dujonchet, un officier français. Au niveau des Grands Lacs, c'est 60 milliards de kilowattheures de réserves annuelles. Lorsqu'on va au niveau de la Guinée, Sierra Leone, Libéria, 25 milliards de kilowattheures de réserves annuelles d'énergie hydraulique. 25 milliards de kilowattheures également de réserves annuelles d'énergie hydraulique pour le Ghana et la Côte d'Ivoire. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que la Convention des Nations Unies pour le climat ne devant servir qu'à la négociation politique sur ce que l'Afrique apporte de positif, en tout cas c'est notre avis, hein, car il est temps pour l'Afrique de revenir dans la grande scène de l'histoire. Comment expliquer qu'un continent aussi vert, aussi densement fourni en énergie verte, soit à la traîne lors des négociations? C'est une question que je pose. Je suis Arlino, commandant de bord de cette mission. Et je m'adresse à toi. Le panafricanisme est la philosophie de notre survie. Alors, prends soin de toi, car nous sommes le monde.